introduction, Joël vous a parlé de bonnes nouvelles, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais. Alors moi j'en ai une bonne cet après-midi. Hein. Ouais. Je vous propose de l'illimité et du gratuit, ça vous dit ?
Oui.
Ah, on connaît les connaisseurs. Hein. Ouais. De l'illimité et du gratuit. Et pour cela, on va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, un seul verset, évangile de Jean, chapitre 3, c'est le verset 16. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Il est dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde » qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Gratuit et illimité. Je répète, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la chance, en France, d'habiter dans un pays où tout ce qui concerne les communications, télécommunications, sont relativement abordables, pas trop chers. Il semblerait que notre offre triplée, c'est quasiment la meilleure marché du monde. Vous allez dans tous les autres pays, ça ne coûtera pas 39,90 € ou 38 €, mais ça coûtera beaucoup plus cher. En France, on est les champions du monde en ce qui concerne l'illimité et le gratuit. Et puis on est dans une société un peu comme ça, vous allez dans les magasins, deux achetés, le troisième offert. Donc on met la promotion en tête de gondole pour expliquer que finalement ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. D'ailleurs, ne vous est-il jamais arrivé, pour parler du téléphone, vous avez un téléphone, il est peut-être avec un forfait illimité. Aujourd'hui, les SMS sont illimités, on peut téléphoner sur des fixes, sur des mobiles, en France, à l'étranger, c'est plus ou moins illimité. Et selon le forfait que vous avez, quelqu'un a besoin du téléphone, vous lui prêtez, et il dit « Excuse-moi, je dois donner un deuxième appel », et vous allez lui dire « T'inquiète pas, tu peux téléphoner tant que tu veux, c'est gratuit. » Non ? C'est souvent ce qu'on dit. Hein ? Mais tous les mois, sur mon compte en banque, on m'enlève des sous. Donc c'est pas si gratuit que ça, quoi. On finit par croire que c'est gratuit, mais on le paye quand même. On le paye quand même. Et puis, illimité, gratuit, ça dépend pour où. Hein. Un jour, j'ai fait une très bonne affaire. J'ai changé de forfait. Je gratte les affaires comme ça. Dès que je peux, hop, je saute d'un forfait à l'autre. On arrive toujours à faire des économies, puisqu'on est dans un monde concurrentiel. Donc, on peut y gagner quelque chose. Et j'étais très satisfait. Je me fais rarement avoir, donc j'étais très satisfait du forfait que j'avais, jusqu'au jour où je suis parti à l'étranger. Mon Dieu. En 15 jours, ils se sont rattrapés de tout ce que j'avais économisé dans l'année. Hein. Je n'ai pas beaucoup téléphoné, mais sauf que l'offre était très alléchante, mais il fallait regarder derrière. Les petites lignes qu'on ne lit jamais. Hein. Voilà. Et en fait, il faut bien se rattraper quelque part, après tout. C'est de bonne guerre, hein. J'avais qu'à faire attention. Donc c'est normal, évidemment. À un moment donné, il faut bien être capable de se rattraper. Je suis surpris quand on nous parle de tarifs uniques. On a une quantité impressionnante de services en y réfléchissant. Des fois, le service, il n'est pas si formidable. Il n'est pas bien proposé dans tout un tas de domaines. D'ailleurs, je ne sais pas comment certains ont la patience de faire cela. Mais pareil, vous allez dans un magasin 100% remboursé. Donc vous l'achetez. Mais quand vous voyez tout ce qu'il faut faire pour vous faire rembourser, entre le ticket, machin, écrire, etc., envoyer, attendre, oh là là, je pense que ça en décourage la moitié. Hein. Sauf que vous l'avez pris quand même, parce qu'il y avait écrit remboursé. Bref, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, et cet après-midi, là, pendant que je vous parle, vous aurez le choix entre le « tout est compris » ou le « tout est accompli ». Je vais vous expliquer la différence. Tout est compris, vous l'avez dans le commerce, vous l'avez autour de vous, vous pouvez prendre tous les avantages que le monde vous propose, allez-y. Il y aura peut-être des choses pas prévues au programme. Vous allez avoir quelques mauvaises surprises. parce que c'est le principe, il faut bien que tout le monde y gagne. Donc tout est compris. Essayez quand même de vous poser la question, fouillez un petit peu, allez un peu plus en profondeur pour voir si réellement c'est comme cela. À la différence, quand, parce que c'est une expression de la Bible, cela, quand la Bible dit « tout est accompli », il n'y a rien derrière qui soit caché. Tout est dit, tout est clair, tout est présenté. C'est facile à faire le choix, c'est facile à analyser, vous avez tout sous les yeux. Et j'aimerais cet après-midi vous montrer de quelle manière tout cela vous est présenté devant les yeux. Avec Dieu, le message est très simple. On parle d'amour, on parle de rédemption et on parle de salut. En introduction, Joël vous a dit quelques mots en ce qui concerne le salut, le rachat, la rédemption, le prix qu'il a fallu payer. Eh bien, dans l'Écriture, il y a tellement d'exemples et notamment des versets. Un verset de la Bible, si vous voulez, c'est une promesse de Dieu pour vous. Un verset de la Bible, ce n'est pas sorti de la tête de quelqu'un qui s'est dit « je vais écrire quelques textes sacrés et puis on mettra cela dans des livres, on va confiner ça à la chrétienté ou à la religiosité et puis ça deviendra de belles sentences et chacun y prendra certainement sa part s'il y croit. » Non, tous les versets de la Bible viennent de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et si ces paroles viennent de Dieu, elles viennent à vous comme des promesses. Ce sont des promesses que Dieu vous fait. Et j'en ai retenu quelques-unes, et notamment la première d'entre elles qui rejoint ce verset « Car Dieu a tant aimé le monde. » Dieu a tant aimé, a tant aimé. Dans une autre lettre que l'apôtre Jean, à nouveau, va écrire, il en écrira trois d'ailleurs, dans une de ses lettres, il dira ceci, en parlant de l'amour de Dieu, « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. » Comment mieux vous décrire l'amour de Dieu, sinon en vous disant que cet amour s'est manifesté en actes. Il s'est passé des choses, d'ailleurs. Finalement, on revient toujours à la même chose quand on parle d'amour, prouve-le. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, vous attendez des preuves, vous attendez qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a rien, on peut douter de la sincérité, de ce qui nous est dit. Évidemment, on peut en douter. L'amour, en général, évidemment, répond à certaines règles. Il y a des exigences, il y a des raisons. On n'aime pas pour rien, il y a des raisons pour aimer. Et puis, il y a certainement un facteur réciprocité quand même, hein. Je veux dire, si on aime bien quelqu'un, on aime bien qu'il nous aime en retour, hein. Parce que si c'est toujours dans le même sens, à un moment donné, les gens s'usent, les gens se lassent. Et puis, si vous n'attendez des autres que de l'amour et si vous n'êtes pas prêt à en donner, tôt ou tard, je vous le dis, mais vous allez vous retrouver tout seul. Tout seul et toute seule. Parce que tous ceux qui auront fait des efforts pour vous, ils vont dire à un moment donné, il n'en vaut pas la peine. Donc, il y a un facteur réciprocité quand même. On aimerait bien qu'il y ait un échange. On aimerait bien qu'il y ait quelque chose en retour. C'est difficile d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. C'est difficile. Hein. Moi, j'ai du mal. Hein. Faut le faire. Hein. Mais ce n'est pas évident quand même. Je ne dis pas que je ne le fais pas. Hein. Je dis que ce n'est pas facile. Aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. D'ailleurs, c'est bizarre quand l'expression, quand on dit de quelqu'un, « Oh là là, il n'est pas aimable », ça veut dire qu'il n'est pas poli en général. Il n'est pas aimable, hein. Il m'a renvoyé comme ça, il ne m'a même pas dit bonjour, au revoir, etc. Il n'est pas aimable. Non, non, prenez le sens du mot. Ça va beaucoup plus loin. J'ai du mal à l'aimer. Je n'arrive pas à l'aimer. Il y a quelque chose dans son comportement, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, qui est révulsant, qui est contrariant, qui ne me plaît pas, qui ne m'intéresse pas. Donc, j'ai du mal. J'arrive pas. C'est difficile. Et pourtant, ça, c'est apparemment une bonne nouvelle. La Bible dit que Dieu vous a tant aimé. Est-ce à dire que vous étiez aimable? C'est une bonne nouvelle, ça. Vous étiez aimable. Alors Dieu vous a aimé. Parce que finalement, tout le monde aurait voulu vous aimer parce que vous êtes formidable. Alors Dieu vous a aimé lui aussi. Ça ne semble pas être exactement comme ça que la Bible nous explique la chose. Dans le livre des Actes des Apôtres, on parle d'un homme qui est devenu chrétien. Il ne l'était pas, il est devenu chrétien. Il a fait une expérience avec Dieu. Cet homme, d'ailleurs, changera de nom et deviendra plus tard l'apôtre Paul. Avant de s'appeler Paul, son premier nom, son vrai nom, était Saul. Il habitait une ville, Tarse, en Cilicie. Et on a commune de l'appeler dans la Bible Saul de Tarse. Saul qui venait de la ville de Tarse. Et Saul a grandi avec un cursus religieux très sévère, très, très étroit. En fin de compte, c'est l'histoire du point laser. C'est-à-dire que plus vous ramenez le faisceau lumineux à un point, et plus ce sera pénétrant et violent. Et Saul, avec sa culture très, très, très fermée, très étroite, il va devenir extrémiste, fanatique. Fanatique dans le judaïsme, extrémiste dans le judaïsme. Et quand le christianisme est arrivé, quand Jésus a annoncé la bonne nouvelle, et quand le christianisme a commencé à s'implanter, un homme s'est levé avec fureur pour couper court à ces vents de piété qui commencent à se répandre en Palestine, et c'est ce fameux Saul de Tarse. Il nous est dit de lui, regardez la description, et après vous allez me dire si vous étiez prêt à faire une croisière avec lui. Il est dit de cet homme, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les chrétiens. Vous partez en voyage avec lui, vous ? Ah, il n'est pas aimable, hein ? Certainement pas aimable, celui-là. Moi, j'y vais pas, hein ? Non, non. Vous imaginez, il respire la menace et le meurtre. Il est peut-être encore les mains tachées des derniers crimes qu'il avait commis. Cet homme n'était pas du tout aimable. Et pourtant, Dieu vient le rencontrer et Dieu touche le cœur de cet homme. Parce que dans le fond, s'il était comme ça, il y avait sans doute des raisons. Il était persuadé d'avoir raison. Il était persuadé qu'il était dans le vrai. C'est compliqué de dire à quelqu'un qu'il se trompe quand il est convaincu d'être dans le vrai. C'est compliqué. C'est pas évident de dire à quelqu'un qu'il fait fausse route, que c'est un mauvais chemin, c'est une mauvaise direction, quand il est persuadé d'avoir raison. Alors qui pouvait convaincre cet homme ? Personne, excepté Dieu. Et Jésus est venu le convaincre. Dans une discussion qui est rapportée dans le livre des Actes, au chapitre 9, il nous est dit que Dieu lui-même vient se présenter à Saul de Tarse. La rencontre est percutante. Saul tombe à terre. Il tombe soudainement aveugle. On entend du bruit, une grosse lumière. Et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Non pas « Jusqu'à quand me persécuteras-tu ? Combien de temps la chose va-t-elle durer encore ? Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Et Saul de répondre « Mais qui me parle ? Je ne sais pas qui tu es. Qui est en train de m'adresser cette parole ? Qui me parle ?» Et la voix dira « Je suis Jésus que tu persécutes. » En fait, ce Dieu qu'il voulait servir, il était en train de le persécuter. Il était dans l'erreur, persuadé d'avoir raison. Persuadé d'être dans le bon chemin. Et si personne ne vous dit que vous trompez, vous resterez dans l'erreur. Et si Dieu vient vers vous en vous disant « tu as fait fausse route, tu t'es trompé », ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, mais c'est précisément parce qu'il vous aime. C'est précisément pour vous aider. C'est précisément pour que vous quittiez ce chemin de perdition qui vous mène nulle part vers le néant, et puis pour tout simplement vous bénir et vous faire du bien. Alors Saul n'était pas du tout aimable. Il y en a un autre dans un autre registre, vraiment dans un autre registre, mais le pauvre, il avait une mauvaise réputation, allez savoir si elle était réelle ou pas. Toujours est-il que cet homme porte un nom, évidemment, il s'appelle Zachée, et on trouve son histoire dans l'évangile de Luc, et il nous est dit que Jésus va prendre du temps pour aller passer un moment avec lui dans la maison de cet homme. Et quand Jésus, le Saint, Jésus le pur, Jésus le parfait, Jésus le Messie, entre dans la maison de cet homme-là, mais ça fait jaser. Ça fait jaser. Et tous ceux qui sont autour ne comprennent pas. Et ils se disent, mais comment se fait-il qu'il est allé loger chez un homme pécheur ? Là, vous avez tout dit. Quand vous dites de quelqu'un, c'est un pécheur. Non pas un pécheur à la vigne, hein. Pécheur, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui n'a pas de cœur, quelqu'un qui n'a pas de conscience, quelqu'un qui est tordu dans sa tête. Il est allé manger chez un bon à rien. Ce n'est pas très flatteur hein, pour cet homme-là. Jésus l'aimait. Donc Jésus est entré dans sa maison. Et vous savez, ça a été quoi le résultat ? C'est qu'il n'a pas fallu longtemps. Hein. pour que cet homme comprenne qu'il avait besoin de Dieu. Et la conclusion de tout cela, c'est qu'il ira même jusqu'à dire, si j'ai fait tort, fallait encore le prouver, hein, si j'ai fait tort à quelqu'un, je suis prêt à lui rendre 4 fois plus. Là, il s'est passé un vrai changement. Le gars, il va vider son compte en banque peut-être, c'est pas grave. Il a rencontré la perle de grand prix, il a rencontré celui qui pouvait changer sa vie. C'est un exemple, mauvaise réputation, des gens qu'on n'aime pas, parce qu'on s'est fait tout un tas d'idées sur eux, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, etc. Je me pose encore la question par rapport à ce garçon, on n'a pas son nom, on trouve son histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Cet homme a été, de façon très pudique, appelé le fils prodigue. Quelqu'un qui, tout jeune, a décidé de quitter la maison en prenant la carte bleue quand même au départ, et puis son compte en banque, qui était bien fourni parce que le papa avait coupé l'héritage en deux, puisqu'il avait 2 enfants, 2 garçons. Et puis lui est parti avec la part de bien qui lui revenait, et en quelque temps, il a tout craqué, il a tout dépensé. La Bible dit qu'il va tout dépenser en vivant dans la débauche. On imagine, qu'est-ce qu'il a pu faire? Est-ce qu'il a fait la fiesta? Il a été à Ibiza, ou il a été dans des endroits où on fait la fête jour et nuit. Il avait plein d'amis, il a dû payer des coups à boire à tout le monde. Bref, il a peut-être été vers des soirées plus louches où la drogue circule, où il n'y a pas que des bonnes choses. Il a peut-être essayé de faire du trafic, aller savoir, pour acheter, vendre, etc. En tous les cas, manifestement, il a eu une vie très, très, très dissolue. Ça laisse des traces, hein? Ça laisse des traces. J'ai connu quelqu'un qui malheureusement avait sombré dans l'alcool, longtemps, très 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 longtemps. Et bien quand vous voyez cette personne des années après, le visage avait changé, plein de trous, le visage avait changé, plus le même. Quand on voyait les photos de 20 ans en arrière, waouh, c'est destructeur hein, l'alcool. Mais la drogue c'est pareil, les mauvaises rencontres c'est pareil, des vies complètement déréglées c'est pareil, c'est destructeur, littéralement destructeur. Mais ce garçon a détruit sa vie, détruit sa vie. Puis un beau jour, il en a marre, parce qu'on en a toujours marre. Faire la fête, ça va un moment. La fête, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas toujours à la fête quand on fait ça, mais il en a eu marre. Et il a fait le tour et il s'est rendu compte qu'il était dans un pays très loin de chez lui, un pays étranger. Il n'y a personne qui avait de la considération pour lui. Il n'intéressait personne. Le seul boulot qu'il avait trouvé, c'était d'aller travailler dans une porcherie, rien de meilleur. Il ne pouvait même pas manger les aliments qu'on donnait aux pourceaux. Il mourait de faim. Et à un moment donné, un moment de lucidité, un moment d'intelligence, un moment de clairvoyance. Et il se dit, mais il faut que je rentre à la maison. Il faut que j'arrête. Il faut que je rentre à la maison. Sauf que rentrer à la maison, pas si simple. Hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Bonjour, c'est moi. Elle est où ma chambre? C'est plus compliqué que ça. Hein? Ouais. Remarquez. On est surpris des fois. Et vous voulez que je vous dise, Dieu peut vous surprendre cet après-midi. Dieu peut vraiment vous surprendre. Parce que ce garçon, il en avait certainement long comme le bras de tout ce qu'il avait à se faire pardonner. Certainement. Et pourtant, quand il est arrivé, il n'était pas encore arrivé à la maison, il était relativement loin. La Bible nous dit, et vous trouverez ça dans l'évangile de Luc au chapitre 15, son père l'a reconnu. Il était pourtant assez loin. Il l'a reconnu, il a foncé vers lui, non pas pour lui casser la figure, mais il l'a serré dans ses bras. Et il a dit, mon fils était mort, et mon fils est revenu à la vie. Alors on a fait la fête, c'est incroyable, on a fait la fête. Lui, il n'a rien demandé, il n'a pas osé évidemment demander quelque chose, mais dès qu'on est arrivé à la maison, le père a demandé à quelques-uns des ouvriers de la maison, préparez le méchoui, on va faire la fête, on va se réjouir. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Et on a commencé à faire la fête, on a fait venir les musiciens, ça a commencé à chanter, à danser, bref, on s'est éclaté. Et puis arrive un moment plus tard, le frangin. Je vous ai dit qu'ils étaient 2 frères. Le deuxième arrive. Lui vient de passer sa journée au travail, hein, au boulot, pour son père. Il rentre, il entend de la musique, etc. Et puis tout d'un coup, il voit passer quelqu'un, des ouvriers. Il lui dit, oh, il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et l'autre, tout excité, parce que jusqu'à présent, c'est parfait, hein, le tableau est parfait. Lui, tout excité de ce qui est en train de se passer, il dit, tu vas jamais le croire, ton frère, il est revenu. Celui que ton père croyait mort, il est revenu. Alors ton père a ordonné qu'on fasse la fête. Et hop, il file, il continue. Sauf que le frère aîné, ben le message, il passe pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais alors vraiment pas du tout, du tout, du tout. Il est en colère. Il veut même pas rentrer. Son père va dehors en disant, mais tu fais quoi ? Hey, il faut qu'on se réjouisse, rentre. Et si je vous disais, ben je vais vous le dire, tiens. Si je vous disais ce qu'il a dit de son frère. Imaginez, deux frères, ils ont grandi ensemble. Ils ont joué ensemble. Ils ont partagé plein de choses ensemble. La vie les a séparés. L'un a fait de mauvais choix. L'autre n'a jamais bougé. Toujours resté à la maison. Il n'a jamais varié, il n'a jamais bougé. Sauf que c'est peut-être l'eau qui dort. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Hein. Mais là, il va révéler ce qu'il ressent et quel est l'état de son cœur. Il s'adresse à son père, hein, et il dit, très en colère, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, c'est son frère, hein, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu sacrifies le veau gras, c'est pour lui que tu fais tout ça. Il parle de son frère. Son frère, pour lui, n'était pas aimable. Son frère, pour lui, avait brisé le cœur de la famille, le noyau familial, etc. Il avait tout dépensé, il avait tout craqué comme cela. Il ne mérite pas de rentrer, c'est pas normal. Surtout pas par la grande porte. Surtout pas par la grande porte. Voyez, il n'y a que Dieu qui peut aimer quelqu'un de pas aimable. Il n'y a que Dieu qui peut aimer quelqu'un de pas aimable. Et la bonne nouvelle pour vous cet après-midi, c'est que ces gens dont je vous ai parlé, Saul de Tarse, qui respirait la menace et le meurtre, Zachée, collecteur d'impôts, qu'on considérait comme quelqu'un qui n'était pas intéressant, et puis ce fils prodigue, ils étaient sans charme, sans avantage, sans vertu. Vous croyez qu'ils pouvaient venir avec une bonne odeur, un bon parfum, pour dire à Dieu, tu n'as qu'à m'aimer, je suis aimable ? Certainement pas. C'était tout le contraire. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé d'aimer Saul de Tarse, Zachée et le fils prodigue et vous cet après-midi. Ils n'étaient pas aimables, mais il les a aimés quand même. La première bonne nouvelle, et ça, je vous le dis, c'est le cadeau de Dieu pour vous, même et surtout peut-être pour les pires. Il y a des gens, on a considéré qu'ils étaient irrécupérables. C'est dur quand même, hein, comme expression, hein. Ah, lui, de toute façon, laisse tomber, il est irrécupérable. C'est-à-dire, vous le prenez, vous le mettez à la décharge. Irrécupérable, on n'en fait rien. On ne peut même pas le recycler, irrécupérable. Vous vous rendez compte ? Non. On est tous plus ou moins irrécupérables. Il n'y en a qu'un qui a les pièces de rechange et qui peut recycler, qui peut renouveler, qui peut régénérer, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut réparer ce qui est cassé en vous. Et même si vous n'êtes pas aimable parce qu'il y a des choses cassées, peut-être que vous les avez cassées vous-même. Ça vous regarde et il n'y a que Dieu qui peut en juger. Mais sachez que cet après-midi, Dieu vous pardonne et qu'il vous aime et qu'il peut tout changer. Il est capable de le faire. L'offre, entendez bien, elle est gratuite. Elle est illimitée. Prenez-la cet après-midi. Il y a une autre raison qui explique ce que l'on a lu tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans une lettre, l'apôtre Paul, le fameux Saul de Tarse devenu croyant, l'apôtre Paul dira ceci au chapitre 5 de la lettre qu'il envoie aux chrétiens qui habitent à Rome. Au chapitre 5 et au verset 6, il leur dit « Car lorsque nous étions, » il se met dans le lot, hein, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, choisi, est mort pour des impies. En fait, il fallait que Jésus meure pour vous. Il le fallait. Pour ceux qui étaient là ce matin, on en a parlé. Il le fallait que Jésus meure pour vous. C'était une obligation. Mais franchement, quelle preuve d'amour tout de même. Quelle preuve d'amour. Qui l'aurait fait ? Qui aurait été jusque-là ? Qui aurait finalement accepté de donner sa vie pour quelqu'un qui n'en valait vraiment, vraiment pas la peine ? C'est incroyable parce qu'on nous dit qu'on est dans une société très évoluée. Les hommes n'ont jamais cessé d'évoluer, hein, faut reconnaître. Et puis, on a évolué sur la voie du changement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous les changements qu'il y a aujourd'hui, tous les changements climatiques, par exemple. Bon, il paraît que certains disent qu'on y est pour beaucoup, d'autres disent qu'on y est pour rien. On va prendre le milieu et on va se dire qu'on y est sans doute pour quelque chose, certainement. Donc, des changements, il y en a plein. Et on fait des tas de changements et on aime tous ces changements formidables. Sauf que j'ai remarqué avec le temps que l'évolution a énormément créé de révolutions et que les révolutions ont souvent créé beaucoup de précipitations et beaucoup de, malheureusement, de dissolution. C'est-à-dire qu'on crée les choses et on les détruit après. On crée, on les détruit. On crée, on n'est pas capable de les finir et elles se brisent et elles se cassent. Pas besoin de réforme pour rentrer dans le ciel. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer pour réussir à passer par la porte étroite qui mène au ciel. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer pour ça. Vous n'avez pas besoin non plus de changement pour rentrer au ciel. Parce que ça ne marchera pas. Allez-y, changez. On fait un pari. Allez, à partir d'aujourd'hui, vous changez. Et on se voit dans 3 mois et vous me direz, qu'est-ce qui a changé? Je suis sûr que pas grand-chose aura changé. Ça aura changé 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et puis il y aura une occasion, une circonstance, et hop, on redeviendra ce qu'on a été. C'est comme ça, c'est la nature humaine. On ne peut pas échapper à ça, c'est notre nature. Donc, si vous pensez que grâce à vos mérites, grâce à vos efforts, grâce à votre valeur, à vos valeurs, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de droit, je ne mens pas, je ne triche pas, j'essaye de faire le bien... Par rapport à tout cela, si vous pensez que tout ça, ce pack, va vous permettre d'entrer au ciel, vous vous trompez. Vous mettez le doigt dans l'œil, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je suis désolé, hein, je vous déçois certainement, mais ça ne marchera pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. De ça, je n'en veux pas. De ces réformes-là, je n'en veux pas. De ces changements-là, je n'en veux pas. Ce n'est pas possible. On peut essayer de faire et de faire et de faire encore des efforts. Ça ne marchera pas. La seule solution, c'est que quelqu'un d'autre prenne votre place et paye pour vous. C'est la seule solution. Quand j'étais jeune, dans la ville où j'habitais, est passé un groupe de c'était des artistes un peu sportifs, ça s'appelait les Harlem Globetrotters. Vous avez entendu parler de ça, des basketteurs qui faisaient des acrobaties, etc. Bref, et ils étaient passés dans la ville et donc on n'avait pas de sous pour aller assister au spectacle. Donc on a attendu un moment, puis on a essayé de trouver une faille dans les barrières. On a essayé de rentrer quand même, hein, parce qu'on ne voulait pas rester que dehors. Et puis il n'y a rien eu à faire. C'était fermé, bloqué, pas possible. Et puis on a attendu patiemment. Et à un moment donné, quand on était plutôt vers la fin que vers le début, on a supplié les gardiens de nous laisser rentrer. J'aurais bien voulu dire je suis le fils d'un tel. Non, mais c'était pas possible, ça servait à rien. Et puis ils nous ont quand même laissé rentrer pour vraiment la fin. On était tout contents. Hein. Mais je me dis que si j'avais peut-être été le fils, je sais pas moi, président de la République, peut-être qu'il m'aurait dit, je vous en prie, rentrez, salon d'honneur. Ouais, peut-être bien. Tout ça pour dire que, quelquefois, être le fils d'eux, ou que quelqu'un prenne notre place, que quelqu'un se fasse passer pour nous, ça peut nous aider, ou si on se faisait passer pour quelqu'un d'autre, ça pourrait aider aussi. Quelqu'un comme ça qui est arrivé devant un stade pour une compétition, et il a voulu rentrer, Et donc, il a voulu bluffer les agents de sécurité. Et il a dit, j'ai oublié mon billet, mais j'ai reçu une invitation spéciale. Je suis le fils d'un tel. Une huile de la ville. Hein. Et l'autre, pas très sûr, hein, le gars de la sécurité. Cette personne-là avait du baratin quand même, savait baratiner. Et au moment où le gars il allait céder, finalement... Le gars de la sécurité dit « Ah ben, attendez, il y a votre père là-bas » Et pst, il a filé. Hein. C'était pas son père. Il a filé. Hein. Manque de peau, le gars, il est arrivé. En fait, qui va payer à votre place la dette Parce que devant Dieu, vous avez une dette. Qui va la payer? Qui va la payer? Ça ne se paye pas en argent. Vous l'avez compris, ça ne se paye pas en problèmes résolus, type baccalauréat. Non, ça ne se paye pas comme ça. Ça se paye avec du sang, en donnant sa vie, en mourant. Pas dit que beaucoup soient d'accord avec ça. Hein. Peut-être pas dit que vous en trouviez même un seul, hein, qui veuille payer à votre place. Eh bien voilà, la belle offre de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il vous a donné son Fils cet après-midi. Il vous l'a donné. Et Jésus a accepté de s'offrir pour que vous soyez sauvés. Il a accepté de mourir à votre place. Mais quand j'y pense, d'ailleurs, c'est impossible de comprendre. Je peux juste dire merci. Je peux juste dire merci. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, dit le même apôtre Paul dans le même texte des Romains. À peine quelqu'un mourrait pour une bonne cause, une juste cause. Jésus a décidé de mourir pour une mauvaise cause, des gens qui n'en valaient pas la peine. Mais la cause ultime était tellement belle et tellement bonne pour vous sauver, afin que vous alliez au ciel pour l'éternité. C'est ça l'offre que Dieu vous propose. Et je termine avec le salut, parce que c'est quand même important de s'en souvenir. L'apôtre Paul a vécu une vie trépidante, et quand il arrivera pratiquement vers la fin de sa vie, à la fin du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28 et au verset 28, il dira enfin ceci: « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Il s'adresse à des Juifs, et à cette époque-là, les Juifs considéraient païens tous ceux qui n'étaient pas Juifs comme eux. Païens, c'est devenu assez péjoratif, mais à l'époque, païen, ça vient d'un mot qui veut dire paysan, et donc c'était tous ceux qui vivaient autrement que le peuple d'Israël, et forcément tous les autres peuples avaient d'autres croyances. Et par déformation, ça a donné l'idée que les païens, ce sont des gens qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas, qui vivent sans croyance, sans Dieu, sans avoir fait la paix avec Dieu. Et c'est réel. Donc, Jésus a annoncé le message de l'Évangile à ceux de sa nation, aux Juifs. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et bien d'autres ont commencé à annoncer la bonne nouvelle à ceux de leur nation, juifs. Et puis à un moment donné, ils ont compris que l'offre était illimitée et que ce n'était pas limité au peuple d'Israël, mais que c'était pour la terre entière, que c'était pour la terre entière. Alors ils ont commencé à aller par tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aux quatre coins du globe, aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui entendent parler de Jésus qui meurt sur une croix pour pardonner leurs fautes et ils y croient. Et ils donnent leur cœur à Dieu, c'est extraordinaire ça. Allez expliquer comment un homme au fin fond de l'Amazonie, qui n'a rien à voir avec votre culture, qui ne vous ressemble absolument pas, va quand même croire dans le même message que vous. Parce que le message, il est intemporel, il est éternel, il est au-dessus de tout ce qui est coutume, mœurs, etc. Il est spirituel et il va droit au cœur. C'est cela qu'il vous faut cet après-midi. C'est un message pour tous les hommes sur toute la terre. Avec Dieu, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas deux messages. Aux uns, on donne ce message et aux autres, on donne un autre message. Non, non. Le langage de la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, tenez-vous, mettez votre prénom, mettez votre prénom. Dieu a tant aimé le monde, afin que, mettez votre prénom, croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si vous mettez votre prénom à la place de quiconque, d'un coup ça prend du sens, d'un coup ça veut dire quelque chose. Et en fait, vous pouvez vous approprier le message cet après-midi et comprendre qu'il est nécessaire pour vous. C'est une occasion, évidemment, qui est à saisir. Alors, vous vous considérez sans doute indigne, je le souhaite, je l'espère. Et puis, vous n'avez rien à offrir. J'ai envie de dire, c'est tant mieux. Vous n'avez même rien à dire pour vous défendre en disant, oui, j'ai mal fait, j'aurais pas dû, mais tu comprends. Vous n'avez rien à dire, rien à défendre. C'est parfait. Parce que d'un coup, vous devenez éligible à cette offre. Ça vous intéresse cet après-midi? Que le salut de Dieu vienne dans votre cœur? Si ça vous intéresse, prenez-le. C'est offert. On va pas faire, Dieu ne va pas faire du démarchage par téléphone. Non, il ne va pas y avoir une grande pub en sortant. Mais en fait, vous venez de l'entendre, le message. Et ce message-là, vous l'entendrez encore certainement si Dieu vous prête vie. Mais ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire cet après-midi. Ne remettez pas à plus tard une décision que vous pourriez prendre là, maintenant. Avec sans Dieu, tout est compris. Mais lisez entre les lignes. Avec Dieu, tout est accompli. Vous pouvez y aller en toute sécurité. Ça fonctionne. Cet après-midi, vous pouvez être pardonné de vos fautes. Vous pouvez être sauvé pour l'éternité. Vous pouvez avoir l'assurance que vos péchés sont pardonnés. Vous pouvez être réconcilié avec Dieu. Et vous pouvez vous en aller accompagné par la présence de Dieu. Ça, ça n'a pas de prix. Ou plutôt, ça a eu un prix. Jésus meurt à la croix. Jésus donne sa vie. Est-ce qu'on peut s'incliner un instant et est-ce qu'on peut prier ensemble? Je voudrais qu'ensemble on s'approche de Dieu. Je voudrais qu'ensemble on puisse demander à Dieu grâce, demander à Dieu de l'aide. Je voudrais qu'ensemble on puisse compter sur la bénédiction de Dieu, le secours de Dieu. Il est tellement bon, tellement bon. Seigneur, nous venons devant toi, nous te remercions pour ce temps passé avec toi, nous te remercions pour ces instants que tu nous as accordés, ces instants que tu nous as offerts. Quel bonheur et quel privilège, quel bonheur et quel privilège. Alors merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Je te demande de bénir encore celui ou celle qui cet après-midi, au milieu de nous, a besoin de te trouver, a besoin de te découvrir. Il est facile de comprendre qu'on est perdu sans toi, il est facile de comprendre que Il n'y a pas de vraie joie si tu ne viens pas, il n'y a pas de vrai bonheur si ce n'est pas toi qui mets de la lumière dans nos vies, qui mets des couleurs dans notre existence. Alors viens, je t'en prie, cet après-midi, et sauve celui qui est terrassé par le malheur, sauve celui qui est écrasé par ses difficultés, sauve et donne la liberté au nom de Jésus.